Badania europejskie.
Rozumiem da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'idée d'une défense européenne est presque aussi vieille que les débuts de la construction européenne. Mais depuis l'échec de la CED, la Communauté Européenne de Défense en 1954, du fait de la France, faut-il le rappeler, l'Europe de la défense a davantage été théorisée lors de savants colloques plutôt que dans les faits. Mais les temps changent et les menaces aussi. L'engagement américain au sein de l'OTAN, déjà moindre, risque d'être remis en question à tout moment par l'imprévisible Donald Trump, alors que la Russie de Vladimir Poutine redevient menaçante et que le risque terroriste s'étend désormais un peu partout en Europe. Témoin de cette prise de conscience, 25 pays de l'Union européenne ont, en décembre dernier, célébré la naissance de l'Europe de la défense que certains ont qualifiée d'historique en souscrivant à 17 initiatives dans le cadre d'une coopération structurée permanente qu'il faudra bien sûr mettre en œuvre pour confirmer le qualificatif d'historique. Alors assistons-nous au sursaut de la défense européenne. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Nicole Niesotto.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire européenne. Votre dernier livre, vous l'avez écrit en compagnie de Pascal Lamy, il s'intitule Où va le monde ? Il est paru chez Odile Jacob et vous êtes la présidente de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, qui est un centre de réflexion sur l'Europe de la défense et la défense d'une manière plus générale.
C'est ça, c'est surtout centré sur la défense française.
Qui, évidemment, est appelée à devenir un peu plus européenne. Manuel Lafont-Rapneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de l'ECFR, European Council on Foreign Relations. Qu'est-ce que c'est que l'ECFR ?
C'est un think tank, une institution...
C'est-à-dire un laboratoire de pensée, on va dire ça, en français.
Exactement, qui cherche à réfléchir et à animer le débat. En l'occurrence, nous, on travaille sur la politique étrangère de l'Europe, des Européens, pas uniquement de l'Union Européenne, mais beaucoup de l'Union Européenne, et on a des bureaux un peu partout en Europe, dont Paris.
Au départ, vous êtes basé à...
Moi, je suis le directeur du bureau à Paris.
Le CFR, le siège central ?
Alors, il n'y a pas de siège central, c'est la beauté des choses. On est entre Londres, Berlin, Varsovie, Sofia, Rome, Madrid et Paris.
Et chacun est aussi important que l'autre ?
Quasiment.
Bonjour, guten Tag, Claude Amayor.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse experte en politique européenne de sécurité et de défense au SWP, le Stiftung Wissenschaft und Politik. Comment vous le diriez en français ?
Ben, en français, je dirais Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité.
Merci en tout cas d'être en ligne du bureau de la RFI à Berlin.
À Bruxelles, la conférence des 6 sur la CED a connu 4 jours difficiles. Monsieur Spaak était le président de cette conférence et l'Allemagne était représentée par le chancelier Adenauer. Monsieur Mendes France apportait à ses interlocuteurs le résultat de ses efforts de conciliation au sein du gouvernement français. Mais l'accord n'a pu se réaliser sur la base de ce compromis. Le président du Conseil français n'a pu convaincre ni Monsieur Spaak, qui avait présenté un contre-projet, ni les autres délégués. Le chancelier Adenauer, Monsieur Beck représentant le Luxembourg, Monsieur Bayen représentant les Pays-Bas et le représentant de l'Italie. Néanmoins, au cours de la dernière nuit, les 6 ont mis au point une déclaration commune sur les buts essentiels, continuer à édifier l'Europe de demain et pour cela assurer d'abord l'entente de la France et de l'Allemagne.
Une archive de l'INA qui porte bien son âge, 1954, et qui illustre l'échec de la CED. Nicole Niesotto, peut-on résumer en quelques mots ce qu'était le projet de la CED, la Communauté Européenne de Défense, lancé par 6 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux, en 1952, c'est-à-dire 7 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et pourquoi il a échoué ?
Alors, la CED, aujourd'hui, c'est une espèce de mythe dans le débat sur l'Europe de la défense, dans le débat actuel. C'est-à-dire, on a une espèce, avec le temps, avec 60 ans, on a une déformation très claire de l'histoire. Et on présente aujourd'hui la CED comme la première grande initiative sur l'Europe de la défense, qui était vraiment européenne, communauté européenne de défense, et qui a échoué malheureusement à cause des Français. Mais ça n'est pas vrai. La CED n'était pas une communauté européenne de défense. En tout cas, il y avait effectivement en son son sein une intégration des armées allemandes et françaises notamment, et puis des autres pays, mais c'était sous commandement américain. Et cette réalité-là, elle est passée sous silence depuis 60 ans.
On a oublié.
On a oublié que la CED n'était pas du tout une communauté européenne. C'était une intégration à la base des armées des six pays, mais le tout sous commandement américain. Et donc, pourquoi ça a échoué en 54? Alors qu'au départ, c'était un projet français. Le plan Pleven, c'est 51. C'est la France qui propose cela. Et finalement, ça a échoué pour deux raisons. C'est deux raisons de politique intérieure française. Il y a eu une alliance entre les communistes et les gaullistes sur deux thèmes. Le premier thème était on réarme l'Allemagne et on désarme la France. C'est-à-dire l'opposition au Parlement ne supportait pas que les armées soient intégrées au niveau le plus bas. L'acceptait pour l'Allemagne, ne l'acceptait pas pour la France, qui était une puissance victorieuse, comme on sait, de la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième raison, c'était que l'ensemble de l'armée française se retrouvait tout d'un coup sous commandement américain. Et donc, le Parlement, en août 54, a voté contre ce qui était un projet français deux ans avant.
Claudia Mayer, est-ce qu'on garde une nostalgie de la CED en Allemagne, ou pas du tout, c'est passé par perte et profit?
Ben, je crois qu'on garde un souvenir de l'idée de la coopération très étroite. Et quand on regarde ce qui était envisagé en 54, c'est une intégration beaucoup plus approfondie de ce que nous avons ou ce que nous faisons en ce moment en Europe, dans l'Union européenne. Et ce qui est important, surtout aussi pour l'Allemagne, c'est que 1954 sonne le début d'une séparation, dans le sens que la coopération économique et dans les autres commerciales et tout ça reste dans l'Union européenne. Pendant que la défense, les questions de sécurité sortent du cadre de l'Union européenne.
Mais c'est en même temps, ça a permis la naissance des communautés économiques européennes, puis plus tard évidemment de l'Union européenne. Ça a été un point de départ, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer.
Oui, mais en même temps, ça veut dire que l'Union européenne n'a pas pris les responsabilités pour les questions de sécurité et défense. Ces questions-là sont en quelque sorte traitées à l'OTAN.
Alors, Manuel Lafont, rappelons, est-ce qu'on peut dire qu'entre 1954 et 1992, c'est-à-dire la date de la signature du traité de Maastricht, qui instaure une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, la fameuse PESC, il ne s'est rien passé ou pas grand-chose?
Il s'est rien passé de significatif. Il y a eu des choses quand même. D'abord, il y a eu des choses à l'OTAN. Il y a eu la mise en place de l'Union de l'Europe occidentale. Mais effectivement, sur le plan strictement européen, les Européens ont choisi un autre chemin pour mener à bien la politique de coopération et d'intégration. Le chemin qui a commencé par le charbon et l'acier et puis qui est devenu la CEE, la Communauté économique européenne. Et effectivement, c'est au moment où on arrive à ce monde de l'après-guerre froide, de l'après-réunification, et où les Européens décident de rentrer dans un projet d'intégration plus politique, avec le traité de Maastricht et la transformation de la CE en Union européenne, ou l'absorption de la CE dans un projet plus vaste et plus ambitieux qui est l'Union européenne, que les sujets de politique extérieure, et notamment de défense et de sécurité, recommencent à apparaître comme étant un sujet sur lequel il va falloir essayer d'organiser les Européens en tant que tels.
Alors, Nicole Niesoto, s'il ne s'est rien passé ou pas grand-chose, comme vient d'expliquer Manuel Lafont-Rapnoux, c'est à cause ou grâce à l'OTAN?
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au départ, quand on pense le projet d'intégration européenne en 51 avec la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le projet est parfaitement stratégique. Parce que intégrer le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne, les deux plus grands ennemis presque séculaires, c'est vraiment intégrer les matières qui font la guerre. Et donc, on se disait, on va interdire la guerre entre ces deux pays, puisqu'on va mélanger les matériaux qui permettent de faire la guerre. Donc, il y avait une vision très politique, très stratégique, pas du tout économique, en 51. Et puis, il y a cet épisode malheureux de la CED, où effectivement, à la suite de l'échec de cette entreprise, le réarmement allemand sera quand même fait, parce que les Américains le voulaient, et il sera fait par le biais de l'OTAN. Donc en 54, et là notre collègue allemand a parfaitement raison, c'est une date très importante, il y a un partage des tâches qui se fait, l'OTAN va faire la sécurité, la CEE embryonnaire, puisque le traité c'est de 56, va faire la prospérité. Et donc le fait que le projet européen à ce moment-là, sort de l'histoire. C'est-à-dire, on oublie la dimension politique et stratégique qu'il avait à l'origine. Et ça, je crois qu'il faut bien en être consciente. Au départ, la CEE n'est pas une entreprise économique. C'est une entreprise politico-stratégique, parce que le contexte l'exigeait, la menace soviétique, etc. Et ça devient une entreprise purement économique qui met de côté les questions politiques et de sécurité à partir de 54, à partir du primat de l'OTAN sur la question de la défense. Donc, il n'y a pas de... Comment dire, la faute, je ne sais pas si on peut parler d'une faute, mais en tout cas, je crois que volontairement, en 54, il y a eu ce partage des tâches, et les Européens se sont dit, donnons à l'Amérique la responsabilité de notre sécurité. Il faut dire qu'en 54, quand même, la sécurité
de l'Europe... On est dans une phase de reconstruction.
Ouais, hein. De reconstruction chez nous, mais d'approfondissement de la menace soviétique à l'Est. Donc, il y a eu un partage volontaire des tâches, ce qui fait que l'Europe est sortie de l'histoire pendant 60 ans, et elle n'y est revenue qu'au début des années 2000, fin 90 des années 2000.
Manuel Lafont, finalement, ce partage des tâches, ça a bien arrangé les Européens. Ils ont été assez contents globalement que les Américains s'occupent un petit peu de la sécurité. C'est le fameux parapluie américain au-dessus de l'Europe.
Alors, c'est le partage des tâches entre sécurité et prospérité, c'est aussi effectivement un partage des tâches entre eux. Les Européens s'occupent de leurs relations entre eux, des relations intérieures à l'Europe de l'Ouest à l'époque, et les Américains sont les garants de l'aspect plus extérieur. Il y a un certain nombre d'autres phénomènes qui aboutissent à ça. Il y a aussi la crise de Suez en 56 qui rappelle aux Britanniques et aux Français les limites de leur capacité politique et militaire, diplomatique et militaire, etc., etc. Et donc effectivement, progressivement, les Européens se glissent dans cette situation du parapluie américain. C'est pas totalement homogène et unanime. Évidemment, en France, on pense à De Gaulle qui avait sa propre vision des choses et qui a souhaité que la France sorte du commandement intégré. Il y a eu le développement du programme nucléaire français, qui est, puisque souvent quand on parle du parapluie américain, on pense notamment à la dimension nucléaire du parapluie, mais effectivement, pour tout un tas d'Européens, les grandes questions stratégiques et les grandes questions d'équilibre de sécurité, notamment en Europe, pour l'Europe de l'Ouest, c'est un sujet qu'on traite avec les Américains et en écoutant ce que les Américains ont à proposer. Et c'est pas un hasard si c'est à partir de la fin de la guerre froide que l'Europe reprend le chemin plus politique et se tourne à nouveau vers un effort pour essayer de construire sa propre politique extérieure et y inclure une dimension de sécurité et de défense.
S'abriter, Claudia Mayor, sous le parapluie nucléaire américain et le parapluie de sécurité américain d'une manière générale, ça a énormément profité aux Allemands. Ils ont été très satisfaits de cette situation pendant des décennies et des décennies.
Certes, mais je crois qu'il faut reconnaître que l'Allemagne a toujours construit sa politique de sécurité et de défense et la politique étrangère sur deux piliers. Il y avait le pilier transatlantique avec les États-Unis, il y avait toujours le pilier européen et ça, c'était toujours la France. Donc c'était toujours les relations franco-allemandes au cœur de l'Europe pour l'Allemagne. Donc il y avait toujours une sorte de double approche dans la politique de l'Allemagne qui est peut-être de plus en plus difficile à réconcilier.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire les uns et les autres sur cette ambiguïté permanente des Américains demandant un partage du fardeau un peu plus important aux Européens et en même temps qui ont condamné toute initiative européenne un peu autonome, Nicole Nisotto?
Moi, je les comprends. J'aurais été responsable de la diplomatie américaine, j'aurais fait pareil, j'aurais fait payer mes alliés et je leur aurais demandé de suivre la ligne américaine. Les Américains mettent quand même dans l'OTAN 70% du budget, 100%, 99% des forces nucléaires censées dissuader l'ex-menace soviétique. Donc, d'abord, il y a trois phases. Il y a la période de la guerre froide où les projets de défense européenne n'existent que dans la tête des Français, parce que pour tous nos autres partenaires, l'idée que contre une menace soviétique de 12 000 têtes nucléaires, on puisse faire une défense européenne autonome, ça leur paraît complètement aberrant. Et donc pendant toute la guerre froide, la défense européenne, c'est un rêve ou une illusion française. Ensuite, il y a la période charnière où l'Union soviétique disparaît et avant que la mondialisation ne change complètement la donne, disons de 1990 à 2000 à peu près. Là, il y a une ambiguïté. Les Européens commencent à vouloir construire quelque chose. Les Américains sont contre. Il y a une période d'opposition systématique de George Bush fils, notamment pratiquement jusqu'à Obama.
Même Clinton,
oui. Une période d'opposition systématique de toute tentative politique des Européens. d'organiser leur sécurité. Les Américains veulent bien que l'on paye, c'est le partage du fardeau, mais ils ne veulent pas que l'on décide. Et là, les Français sont de nouveau tout seuls à dire on peut pas faire l'un sans l'autre, il faut un caucus européen dans l'OTAN, par exemple, ou alors il faut une défense européenne autonome. Et puis, ce débat s'arrête pratiquement avec le changement du monde qui apparaît quand même au début des années 2000, et la présidence d'Obama. Je crois qu'Obama, ça lui est complètement égal que les Européens fassent ou ne fassent pas l'Europe de la défense. Il pense le monde différemment. Il considère que les questions de sécurité européenne, c'est du passé, c'est du 19e siècle.
Il regarde l'Asie, le
22e siècle. Ça n'est, et à ce moment-là, c'est la bureaucratie qui prend le relais. C'est la bureaucratie OTAN et la bureaucratie américaine qui s'opposent aux velléités européennes de la défense. Alors aujourd'hui, on va voir, on est encore dans une autre période avec les incertitudes soulevées par Donald Trump. Mais je crois que du point de vue politique américain, on est aujourd'hui beaucoup plus indifférent. Alors je ne sais pas si c'est un hommage ou au contraire une gifle donnée à la défense européenne. Soit ils pensent que ça sert à rien, soit ils pensent que de toute façon ça ne leur portera plus ombrage. Mais c'est vrai que l'espèce d'hostilité systématique des Américains contre les projets européens est terminée.
Alors Manuel Lafont-Arnoul, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a en gros deux armées en Europe. L'armée française, l'armée britannique, 21% ou 23% des dépenses militaires sont assurées par tantôt les Français, tantôt par les Britanniques. C'est la moitié de l'effort européen en matière de défense.
Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement en termes de capacité militaire et notamment de capacité à projeter ses forces pour entreprendre des missions un peu plus compliquées que de simplement s'interposer sur une ligne de front après un cessez-le-feu.
Ou défiler le 14 juillet.
Il y a essentiellement deux armées qui sont capables de le faire et d'organiser les autres autour d'elles, le cas échéant. Cela étant, il y a quand même en fait énormément d'armées en Europe. Et justement, le problème, c'est le décalage entre la taille des armées et la taille de ce qui est dépensé par les Européens et le résultat qu'on a, c'est-à-dire les capacités que les Européens ont quand ils mettent tout ensemble.
Le coût est efficacité est faible.
C'est ça. La différence entre ce qu'on consacre à la défense au total et ce qu'on a comme résultat en termes de capacité réelle est limitée. Mais même les Britanniques et les Français aujourd'hui, ils sont dans une situation où tout seuls, ils peuvent difficilement faire des choses. Et les Britanniques et les Français s'intéressent beaucoup à essayer de voir comment les autres pourraient évoluer et contribuer. En France, on a beaucoup parlé de ce que on a fait de façon nationale au Mali, et c'est vrai que c'était assez remarquable. Les militaires étaient assez frappés par ce qui a été démontré, mais maintenir ça dans la durée est plus difficile, et on voit bien que les Français sont intéressés à tout ce qu'ils peuvent trouver comme appui, et notamment de la part, y compris des autres Européens.
Et donc ça se traduit par des avions qu'on n'a pas, des équipements qu'on n'a pas, des choses comme ça?
Moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'armée britannique ne peut pas faire ce que fait l'armée française, ne peut plus le faire. Aujourd'hui. Et donc, je suis d'accord pour dire que les interventions françaises dans la durée, ça pose problème, ça coûte très cher. Le Mali, c'est 1 million d'euros par jour, donc c'est vraiment une charge sur les finances publiques. Mais on l'a fait. On a fait aussi en Centrafrique, on a participé à l'intervention internationale contre Daesh, alors que l'armée britannique ne serait pas capable, aujourd'hui ils le reconnaissent eux-mêmes, de faire ce qu'on a fait. Donc il y a une différence quand même, je ne veux pas qu'on fasse croire qu'en Europe l'armée britannique est aussi indispensable que l'armée française, ça n'est plus vrai.
Alors ce qu'au fond, il y a ce débat de spécialistes entre Nicole et Emmanuel sur la capacité des Français et des Allemands à intervenir. Évidemment, si on parle de la capacité des Allemands, elle est très très faible, hein, Claudia Mayor.
D'abord, il faut quand même dire que je suis toujours un peu irritée des débats en France quand on parle de l'Europe et on parle des armées britanniques et françaises. Donc je crois que c'est un point très important de souligner que l'Europe de la défense est un concept très contesté. Parce que tous les pays de l'Europe ou tous les pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas la même chose, ont des priorités différentes et des perceptions des risques et des menaces très différentes. Et ils ont aussi des armées très différentes. Toutes les armées en Europe ont le même problème, c'est que leur souveraineté, ça veut dire leur capacité de décider et de mettre en œuvre une décision, est quasiment inexistante. Donc on peut être autonome pendant une période de temps très limitée, mais pour tous les grands risques, toutes les grandes menaces de l'Europe, que ça soit la Russie, Daesh ou autre chose, aucun pays européen est capable de les affronter seul.
Vous allez avoir l'occasion, avec le démarreur, de le souligner dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. Mais tout de suite, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'idée d'une défense européenne est presque aussi vieille que les débuts de la construction européenne. Mais depuis l'échec de la CED, la Communauté Européenne de Défense, en 1954, du fait de la France, faut-il le rappeler, l'Europe de la défense a davantage été théorisée lors de savants colloques plutôt que dans les faits. Mais les temps changent, les menaces aussi, l'engagement américain au sein de l'OTAN déjà moindre risque d'être remis en question à tout moment par l'imprévisible Donald Trump, alors que la Russie de Vladimir Poutine redevient menaçante et que le risque terroriste s'étend désormais un peu partout en Europe. Témoin de cette prise de conscience, 25 pays de l'Union européenne ont en décembre dernier célébré la naissance de l'Europe et de la défense, que certains ont qualifié d'historique en souscrivant à 17 initiatives dans le cadre d'une coopération structurée permanente qu'il faudra bien sûr mettre en œuvre pour confirmer ce fameux qualificatif d'historique. Assistons-nous à un sursaut de la défense européenne. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Nicole Nisotto, professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle est titulaire de la chaire européenne et son dernier livre, Où va le monde, elle l'a écrit en compagnie de Pascal Lamy. Manuel Lafont-Rapnoux, directeur du bureau de Paris de l'ECFR, European Council on Foreign Relations, et Claudia Mayor, en duplex du bureau de RFI à Berlin. Elle est chercheuse et experte en politique européenne de sécurité au SWP. Dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué à quel point l'émergence d'une Europe de la défense avait été laborieuse depuis l'échec de la CED, Communauté Européenne de Défense, en 1954. Après bien des tâtonnements, il semble qu'un pas décisif ait été franchi en décembre dernier avec l'adhésion de 25 pays sur 27 à un projet de coopération structurée permanente, CSP ou PESCO, selon que l'acronyme soit français ou anglais. C'est une proposition de la Commission européenne avec bien sûr un soutien actif de la France par la voix de son président Emmanuel Macron. Un extrait du fameux discours européen à Sorbonne du 26 septembre dernier.
Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Nous n'avons pas les mêmes cultures, parlementaires, historiques, politiques, ni les mêmes sensibilités. Et nous ne changerons pas cela en un jour. Mais je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun, en proposant une initiative européenne d'intervention visant à développer cette culture stratégique partagée. Pour créer ce rapprochement, nous avons besoin d'un changement profond. Je propose ainsi à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer, le plus en amont possible, à nos travaux d'anticipation, de renseignement, de planification et de soutien aux opérations. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir.
Emmanuel Lafont-Rapnoux, une culture stratégique commune, comme l'évoque Emmanuel Macron, c'est la base de la défense européenne, ses fondations.
Moi, je pense que c'est plus un problème de volonté politique. On en a déjà parlé tout à l'heure. Les cultures stratégiques en Europe, évidemment, elles sont très différentes. Des fois, les Français sont soupçonnés de vouloir transformer les autres pays européens en autre France. Et donc, le sujet, c'est pas tellement est-ce qu'on a la même culture stratégique, c'est est-ce qu'on a la même volonté politique, est-ce qu'on a la même volonté d'agir ensemble sur les mêmes sujets, de faire face ensemble, collectivement, sur les mêmes défis. On a dit beaucoup que une des proximités entre les Français et les Anglais, c'est qu'ils partageaient la même culture stratégique, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont cru qu'on pouvait construire l'Europe de la défense là-dessus. Mais on voit bien qu'en fait, ça n'est pas allé très loin. Après, après Saint-Malo en 98, ça s'est pas transformé, et notamment sur le plan collectif. Si on veut avoir cet aspect collectif, on a besoin, au-delà de la culture stratégique, au-delà des histoires de capacité militaire, d'équipement, au-delà des questions de rationalisation de l'industrie européenne, on a besoin d'avoir une volonté politique commune d'avancer, et c'est pas uniquement en jouant sur la culture des militaires, ce qui est un peu l'idée d'Emmanuel Macron avec son projet d'initiative européenne d'intervention, qu'on va régler la question de la volonté politique.
Alors, Claude Desmaillors, est-ce qu'il y a cette volonté commune entre la France et l'Allemagne dans un premier temps et au niveau européen? En tout cas, comment c'est perçu en Allemagne?
Il y a une très forte volonté en Allemagne de coopérer avec la France dans le domaine de sécurité et de défense. Mais il faut en même temps rappeler que même une très forte coopération franco-allemande ne suffit pas pour entraîner toute l'Europe. Et quand on regarde surtout les différences dans la perception des menaces et des risques en Europe, il y a des très grandes différences. Regardez les pays comme les Pays-Baltes ou la Pologne. Pour eux, la Russie reste un problème existentiel. Regardez les pays comme la France, les priorités sont complètement ailleurs. Donc comment vous mettez ces pays avec leur perception de menaces et de risques complètement différentes? Comment vous les mettez ensemble? Ben, ça veut dire, en fait, la culture stratégique, c'est un concept assez large. Au cœur, il y a la question comment, où et avec qui on utilise la force militaire.
Alors justement, Nicole Niesdotto, qui sont les ennemis de l'Europe aujourd'hui?
Moi, je dirais que les ennemis de l'Europe sont d'abord les Européens. Les Européens, là, on l'a dit, sont divisés, ils n'ont pas la même volonté politique, mais c'est pas simplement une question de volonté. Pourquoi n'ont-ils pas la même volonté politique de faire de la défense? C'est parce qu'ils n'ont pas la même vision du rôle de l'Europe dans le monde. Il y a des Européens qui sont convaincus, notamment avec les évolutions américaines, le fait que l'Amérique veut, d'une façon ou d'une autre, c'était déjà le cas sous Obama, c'est encore le cas sous Trump, se désengager un maximum des contraintes stratégiques qu'elle a en Europe. Un certain nombre d'Européens donc pensent qu'il est temps d'assumer les responsabilités stratégiques, non pas pour le plaisir de faire la guerre, mais pour avoir une voix politique au chapitre dans la solution des crises. Ça sert à rien de faire une défense européenne si le jour de la table, d'ouverture de la table des négociations sur l'avenir de la Syrie ou l'avenir de l'Irak, on n'est pas à la table. Donc il y a cette partie des Européens. Et donc cela suppose une autonomie par rapport à l'Amérique. Et puis, il y a les autres Européens qui pensent que non, en dépit des évolutions américaines, et surtout peut-être à cause des évolutions inquiétantes de l'Amérique, il faut surtout pas aller trop loin dans l'Europe de la défense, faut surtout pas aller trop loin dans l'autonomie stratégique des Européens, parce que sinon, on va perdre encore plus d'Amérique. Et cette partie des Européens pense que le temps, aujourd'hui, est tellement instable et dangereux qu'il vaut mieux maintenir l'insertion de l'Amérique dans la sécurité de l'Europe plutôt que de construire une alternative européenne.
Et moi, si les Américains s'en vont.
Surtout si les Américains s'en vont. Il faut surtout rien faire qui pourrait entretenir ce qui est l'angoisse absolue des Européens, être seuls sans l'Amérique. Pendant 50 ans, les Américains ont bloqué les efforts de défense européenne et aujourd'hui, depuis l'évolution du monde, ce sont les Européens eux-mêmes qui bloquent leurs initiatives éventuelles parce que rien n'est pire que le départ absolu des Américains.
Alors, Manuel Lafont-Hartmann, merci d'essayer de répondre à la question que j'ai posée à Nicole Niesdotto. Elle s'est débrouillée pour contourner la question. Qui menace l'Europe aujourd'hui? C'est la Russie? C'est Daesh? Qui?
D'abord, je pense que ce que dit Nicole n'est pas juste une provocation rhétorique.
On est d'accord.
Il y a un premier problème interne et il faudrait que, si on veut faire quelque chose en tant qu'Européen, il faudrait qu'on commence par traiter ce problème-là. Ensuite, il y a une raison pour laquelle votre question est compliquée, c'est que c'est une question qui induit plein de mauvais réflexes. Pendant très longtemps, juste après la fin de la guerre froide, on a cru qu'on n'avait plus d'ennemis. Et donc, on ne s'est pas occupé de défense et de sécurité, alors qu'on aurait dû à la fois par ambition stratégique, mais aussi pour la défense de nos intérêts, se préoccuper de la sécurité internationale. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis qui nous menacent nous directement, qu'il n'y a pas un état d'instabilité ou d'insécurité sur la scène internationale qui pose des problèmes à nos intérêts, y compris si on veut avoir une vision uniquement réaliste. Ensuite, aujourd'hui, évidemment, on est sorti de cette vision un peu rose du monde, mais On considère pas forcément qu'on a le même ennemi. Et on se retrouve dans des débats sans fin sur est-ce qu'il faut se préoccuper d'abord de telle menace ou de telle autre. Avec alors, toujours le reste
par exemple,
de préparer c'est... un peu la guerre d'avant, en plus de ça.
Évidemment, lorsqu'on est un citoyen d'un pays balte, l'ennemi auquel on pense tout de suite, c'est évidemment la Russie.
C'est évidemment la Russie, ou quand vous êtes en Pologne, ou dans d'autres pays, les Suédois et les Finlandais sont aussi de plus en plus inquiets.
Mais quand on est portugais...
Mais ça n'est pas parce que vous pensez que c'est la Russie que vous préparez votre défense d'une façon adaptée à l'évolution de la menace. Et évidemment, quand vous êtes portugais ou irlandais, vous voyez les choses différemment. Et là où l'Europe devrait avoir un sens, c'est cette idée que si quelque chose menace les pays baltes, ça nous menace nous aussi. Si quelque chose menace les Portugais, ça menace les Finlandais ou les Bulgares aussi. Et je pense qu'une des sorties pour l'Europe de cette question de l'ennemi ou de l'adversaire, elle est dans la vision que l'Europe devrait avoir, l'ambition que l'Europe devrait avoir d'être un acteur sur les questions de sécurité internationale, au-delà de sa sécurité immédiate, et de réfléchir en termes de sécurité internationale et pas juste en termes de sécurité nationale. Aujourd'hui, les Européens regardent chacun midi à leur porte et chacun voit son ennemi ou sa menace prioritaire. On a besoin, pour pouvoir travailler ensemble, de faire place à la perception et à la conception des autres et d'essayer de voir comment on peut faire. Au Sahel, aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus une priorité pour la France que pour d'autres États, mais d'autres États viennent, et de plus en plus. Encore récemment, les Britanniques et les Italiens ont annoncé qu'ils venaient. Et une des choses que répètent les gens qui travaillent aujourd'hui sur les initiatives du président Macron sur les questions de défense, c'est que ils essayent de convaincre leurs partenaires européens que oui, il y a un vrai intérêt français. Ça n'a pas toujours été le cas, manifestement. Il y a un vrai intérêt français, y compris pour travailler avec des États de l'Union européenne qui seraient des plus petites puissances militaires, comme les Baltes, voire des États hors de l'Union européenne, comme par exemple les Géorgiens, qui sont très actifs et qui essayent de travailler avec les Européens, y compris sur des sujets qui sont des sujets pour nous et pas uniquement pour les autres. Aujourd'hui, au Sahel, on a les Allemands, on a les Espagnols, on a les Néerlandais, on a les Danois, et tout le monde ne fait pas la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde ne fait pas la même chose. On n'a pas besoin d'avoir la même approche ou les mêmes capacités, mais chacun joue un rôle utile pour la défense d'un intérêt qui n'est pas juste un intérêt de sécurité français, mais un intérêt de sécurité européen.
Claude Bader, ce discours d'Emmanuel Macron, cette initiative qui a été prise lors d'un sommet européen en décembre dernier, a séduit, puisque 25 pays sur 27 ont adhéré. Seuls Malte et le Danemark ont décliné l'offre. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il se passe quelque chose, disons qu'il y a un frémissement?
Je crois qu'il y a une dynamique, il y a une prise de conscience, mais j'ai un peu peur qu'on perd un peu les bases. On parle très vite d'une vision politique, par exemple aussi du concept de l'autonomie stratégique, mais on oublie un peu de dire ce que ça veut vraiment dire. Quand on parle d'autonomie stratégique pour l'Europe, être un vrai acteur sur la scène internationale, ça implique être capable d'agir seul, niveau industriel, capacitaire et politique. Et si on est très honnête, nous, Européens, envers nous-mêmes, on s'aperçoit qu'on n'est pas autonome et qu'on est très loin de l'être. Niveau industriel, on ne l'est pas. Niveau capacitaire, on ne l'est pas. Niveau politique, c'est pas génial. Enfin, il faut se rappeler que les armées européennes ont été réduits énormément depuis la fin de la guerre froide et depuis la crise économique en 2008. Le résultat, en Europe, en grande partie, ce sont des armées que j'appellerais les armées bonsaï. Très petit, très joli, il y a tout, mais ça sert à rien. Et si on veut surmonter ça, il faut coopérer, il faut investir, mais je pense aussi à moyen terme, il faut coopérer avec les Américains parce que nous ne sommes pas encore autonomes dans tous les domaines.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'Europe de la défense est-elle en train de vivre un sursaut? Nous sommes avec Nicole Niesoto, avec Manuel Lafont-Rapnouille et avec Claudia Mayer. Alors il y a un pays qui se retrouve dans une situation bien particulière, Brexit oblige, c'est le Royaume-Uni. Et pour s'en rendre compte, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Emmanuel Macron a rencontré il y a une dizaine de jours Theresa May à Londres dans le cadre d'un sommet franco-britannique. Et bien sûr, il aimerait bien garder à ses côtés les Britanniques dans le cadre d'une politique européenne de défense, mais Sacha, c'est loin d'être gagné.
Effectivement, Daniel, on a beaucoup parlé du prêt de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni il y a quelques jours, mais le 35e sommet franco-britannique, c'était surtout de la défense. Comme le rappelle le Financial Times, la France et le Royaume-Uni aiment à penser qu'ils sont meilleurs ennemis. Mais dans les faits, en tant que puissance militaire importante, ils ont tous les deux un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, l'axe entre les deux pays est important pour la sécurité du continent. Et ce n'est pas le Brexit qui va changer cet état de fait, même si la relation va être amenée à évoluer, mais reste à savoir de quelle manière. Emmanuel Macron, quand il est venu en effet à Sandhurst, à l'ouest de Londres, avait en tête de persuader Theresa May d'adhérer à son projet d'initiative européenne d'intervention et qui permettrait une plus grande intégration européenne au niveau militaire. Mais comme le dit le Financial Times, si le gouvernement britannique veut vraiment garder des liens étroits avec l'UE en matière de sécurité et de défense, comme il le martèle depuis plusieurs mois, ce serait une très bonne porte d'entrée. Sauf que à Londres, pas tout le monde n'est convaincu par une telle manœuvre. Si on quitte l'Europe, c'est pour regagner une souveraineté totale, dit-on en substance. Mais comme le rappelle le Financial Times, au vu des débats actuels sur les coupes budgétaires au ministère de la Défense, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Surtout d'un point de vue économique, il est indispensable de rester proche des autres États européens. Les exportations britanniques en matière de défense représentent 9% du marché mondial et donc malgré le départ du bloc commercial, il va falloir garder une proximité en vue du développement de nouvelles technologies.
Alors, est-ce que la défense pourrait être un élément dans la négociation des relations entre l'Europe et le Royaume-Uni dans une relation post-Brexit, bien évidemment?
Eh bien, pour le Financial Times, ça l'est complètement. La défense peut même être, et même donner, un coup d'accélérateur à la deuxième phase des négociations. Comment? Eh bien, en donnant des gages sur certains points. Par exemple, le mois prochain, Theresa May doit faire un discours à Munich sur la question, au cours duquel elle devrait montrer, en fait, sa bonne volonté. D'abord, en proposant de contribuer au nouveau fonds européen de défense, même après le départ de l'Union européenne. Un autre geste pourrait être d'augmenter les dépenses en matière de défense de 2 à 2,5% du PIB, ou encore, comme l'avance le journal économique, de proposer une nouvelle structure qui permette à l'UE et au Royaume-Uni d'intervenir là où les États-Unis ne veulent plus le faire. Et conclut le Financial Times, le Brexit pourrait même paradoxalement améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les Britanniques ne seraient plus là pour mettre des bâtons dans les roues en matière de construction d'une défense européenne.
Merci Sacha, Courrier International Hebdo et Courrier International le site. Alors, en un mot, vraiment, Nicole Nisotto, situation pour le moins pas originale et paradoxale. Hein, si l'Europe de la défense a si longtemps patiné, c'est notamment parce que les Anglais lui ont mis bien des bâtons dans les roues, du fait de ce fameux rapport privilégié que Londres entretient avec Washington. Alors, quel peut être l'impact du Brexit, vraiment en quelques mots?
L'impact du Brexit sur l'Europe de la défense, stricto sensu, est un impact positif. C'est-à-dire, on est débarrassé du veto systématique de la Grande-Bretagne. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger, en tout cas d'un point de vue français, le bilatéral franco-britannique, qui n'est pas impacté du tout par le Brexit, et l'Europe de la défense, qui est impactée positivement. Moi, je considère que le fait de ne plus disposer de l'appareil militaire britannique pour construire l'Europe de la défense n'a aucune importance, parce que de toute façon, on ne pouvait pas disposer du potentiel britannique pour construire l'Europe de la défense. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Grande-Bretagne, c'est peut-être le meilleur partenaire de la France sur le plan militaire, mais c'est le meilleur adversaire de la France sur le plan de la construction de l'Europe de la défense. Et donc, continuons notre bilatéral avec eux, ne comptons plus sur eux, sur l'Europe de la défense, et je crois que c'est une bonne chose de ne pas mettre de l'ambiguïté supplémentaire sur un Brexit qui est déjà extrêmement compliqué. L'Europe de la défense s'est fait jusqu'à maintenant sans les Anglais. Si j'avais le temps, je pourrais vous démontrer qu'ils n'ont participé à aucune opération militaire sur le terrain, sauf l'opération anti piraterie dans le golfe d'Aden. Donc on a tout fait sans eux. On a beaucoup fait avec les forces allemandes, espagnoles notamment. Et donc on continuera à faire sans eux. Et en plus, on sera débarrassé du veto.
Claudia Manière, pour que l'Europe de la défense réussisse, et vous l'avez évoqué, il faut évidemment que l'implication des uns et des autres soit plus importante, notamment en termes de budget. C'est le fameux 2% du PIB consacré à la défense. On en est loin. À part justement le Royaume-Uni, la Pologne et l'Estonie qui sont à 2%. La France, à 80-90%. L'Allemagne, elle est autour de 1,20. On en est très très loin.
Oui, on est très loin, malheureusement. Laissez-moi juste ajouter une petite phrase à ce que disait Nicole. J'ai peut-être une petite question que je me pose. C'est dans quelle mesure l'absence de la culture stratégique de la Grande-Bretagne, une vue globale, internationale, très proche de la France, va en quelque sorte appauvrir les débats au sein de l'Europe. Je crois ce qui nous manque pour la défense en Europe et surtout en Allemagne, et c'est la prise de conscience que la défense, dans la définition très étroite, c'est vraiment la protection de notre façon de vivre et que ça compte. Et si on s'est mis d'accord au sein de l'OTAN de dépenser 2% pour la défense, même si c'est un objectif un peu bête, c'est pas un cadeau qu'on fait aux États-Unis, mais c'est quelque chose dont les Européens ont besoin. Et cette prise de conscience, elle est devenue, où l'Allemagne a davantage prise de conscience avec la crise de l'Ukraine.
Et il faut que tout ça soit mis en œuvre. Donc il faut de l'argent, il faut une ambition politique. Alors l'Europe va consacrer un peu d'argent dans le cadre d'un fonds de défense européen. C'est un certain nombre de milliards qui vont servir à faire des recherches, etc. Par exemple, et travailler sur les armements du futur. Par exemple, un système de combat aérien européen. On sent bien que c'est toujours difficile à mettre en œuvre, hein, Manuel Laffont-Rapnouilleux.
En fait, le cas britannique est intéressant parce que, il dépasse de loin les sujets de défense stricto sensu et il permet de réfléchir à un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, qui est que les progrès sur l'Europe de la défense n'auront vraiment tous leurs effets que s'ils s'inscrivent dans des progrès plus larges, notamment en matière de politique étrangère, en matière de politique de sécurité. On aura sans doute intérêt à continuer à coopérer avec les Britanniques contre le terrorisme, en matière de renseignement, en matière de sanctions. Et donc, ça permet de voir ça. Et ensuite, on a pas besoin du Royaume-Uni pour créer l'Europe de la défense. Au contraire, on est en train de le faire sans eux. Mais on voit la tentation d'un format ad hoc qui permettrait de continuer de maintenir les Britanniques à bord. Et c'est un peu ça l'idée d'Emmanuel Macron avec son initiative européenne d'intervention. C'est trouver un format qui strictement parlé n'est pas dans le cadre de l'Union européenne parce que ça permet de garder les Britanniques, de garder une place pour les Britanniques. Et je ne voudrais pas que on voit effectivement se réaliser le fait que les Français qui insiste beaucoup plus sur la dimension opérationnelle, la dimension active de l'Europe de la défense, un peu déçu de la tournure qu'ont pris les discussions et les décisions récentes à Bruxelles, favorise ces formats ad hoc au nom de l'idée de garder les Britanniques à bord, parce que les Britanniques, eux, auraient des capacités opérationnelles supérieures à celles des autres Européens.
Dans l'adhésion des 25 au programme de coopération structurée et permanente, est-ce qu'il y a une conviction pour ces pays qui ont adhérer à cette idée, en tout cas pour l'instant c'est une idée, c'est un projet, hein. Il n'y a pas encore grand chose qui a été mis en œuvre, ou il y a au contraire l'idée de ne pas rater un train en marche, ou pour certains la volonté de torpiller le projet de l'intérieur, je pense par exemple à un pays comme la Pologne, voire à un pays comme la Hongrie, Nicole Niesoto.
Moi je pense, j'ai toujours pensé, je continue de penser que cette coopération structurée permanente, c'est de la poudre aux yeux. C'est l'idée de faire un noyau dur avec ceux qui, au départ, c'était l'idée de faire un noyau dur avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Mais un noyau dur à 25 sur 27, on retombe sur le problème de base, c'est-à-dire on est tous là et donc on ne sera pas d'accord.
Donc on a voulu.
Et donc moi je crois que
certains ont voulu prendre le train en marche.
Oui, il y a mille raisons pour lesquelles tout le monde veut en être. Tant mieux d'ailleurs, ça prouve que la dynamique européenne marche encore. Mais il ne faut pas penser que la CSP, la coopération structurée permanente, va révolutionner l'Europe de la défense. Pas du tout. Je crois qu'on est revenu au point de départ, c'est-à-dire on est 25 au lieu de 27, mais ça revient au même. Et on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même volonté, etc. Si je puis me permettre, je voudrais dire un mot sur la notion d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, Sophia, je comprends ce que vous dites, mais ça n'est pas l'autarcie militaire. Et je crois qu'il faut bien distinguer. Il y a l'exécution militaire d'une opération qu'il faut, bien évidemment, dans la plupart du cas, on le fera sans doute avec les Américains, ou avec les Norvégiens, avec les Turcs, en fait tous ces gens, avec les Anglais, qui ne sont plus membres de l'Union européenne. Donc, sur le plan militaire, l'autonomie, ça ne veut dire aussi de la coopération, simplement, il y a une autonomie politique de décision. Ça n'est pas les Américains qui décident pour nous. En revanche, sur le plan politique, quelle opération, quelle sortie de crise, quelle solution politique à la crise, ça, il faut le faire en européen. Alors, parfois, on sera d'accord avec les Américains, parfois, on sera en désaccord. Par exemple, sur la crise irakienne en 2003, il y avait un désaccord majeur entre la France et l'Allemagne d'un côté, l'Amérique et la Grande-Bretagne de l'autre sur la gestion de Saddam Hussein. Ça, c'est une question politique, et les Européens, en tout cas les Français et les Allemands, ont été autonome sur le plan politique. Donc je crois que autonomie stratégique, ça veut pas dire sans les Américains. Ça veut dire avec les Américains sur le plan militaire, mais sans les Américains sur le plan de la décision politique, parce que sinon, effectivement, c'est clair qu'on n'est pas autonome. On a besoin, on l'a jamais été pendant 50 ans, donc on n'a pas les moyens d'une capacité militaire indépendante.
On arrive au terme de cette émission, Manuel Lafont-Rapneau. Bah, vous allez avoir le mot de la fin. Pour le commun des mortels, la défense européenne, c'est une armée européenne défilant ou combattant, selon les cas de figure, sous le drapeau européen. Évidemment, on en est très très loin.
Oui, on en est très très loin. On en est très très loin pour des tas de raisons, aussi bien de politique intérieure que de faisabilité. Mais justement, le projet européen est pas nécessairement le projet de création d'un État supranational qui remplace les États membres. Et donc, il n'y a pas de raison qu'en matière d'Europe de la défense, la seule finalité possible de ce qu'on essaye de construire ensemble, ça soit une armée européenne qui remplace et se substitue complètement aux armées nationales. Donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble autrement que en attendant d'avoir la possibilité de créer un État supranational avec un seul chef d'État pour prendre la décision d'engager ou pas les armées, responsable devant un seul Parlement, etc. Ni politiquement ni militairement, je suis sûr que ce soit le projet le plus réaliste, à court terme comme à moyen terme. On a besoin d'apprendre en tout cas à travailler autrement et à travailler ensemble. Et c'est ce qu'on est capable de faire sur d'autres sujets. C'est bien qu'on continue à essayer de le faire sur les sujets de défense et de sécurité.
Damo, c'est évidemment un point de vue partagé à Berlin, Claudia Mayor.
Oui, entièrement.
Bon, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un mot bref. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso, Sacha Mitchell de Courrier International et la complicité de Samia Metheny. Merci à Pascal Thibault à RFI Berlin. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr ou les applis mobiles mais gratuites de RFI et notamment la petite dernière RFI Pure Radio disponible quel que soit votre téléphone. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Lesesquelles, où que vous soyez à Paris, Berlin, voire Londres, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.